Merci à BBC Afrique pour ce bulletin d'information. On se retrouve maintenant du côté de la porte de Versailles à Paris, au Salon du Chocolat.
Africa.
La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Le chocolat, source d'inspiration ultime pour de nombreux mélomanes et musiciens, le doigt Manu aimait en avoir un carré à côté de sa tasse de café. 3 kilos de café, nous disait-il. C'était d'ailleurs le titre de la première œuvre qu'il aura sortie, œuvre autobiographique. Plongeons-nous dans cette mélodie intemporelle de Pan Sadi avant de retrouver des convives, des exposants et autres amateurs de cette belle matière. Manu Dibango chez lui, dans la case du dimanche et dans ce salon du chocolat, ambiance particulière où le micro se balade, une discothèque africaine mêlée à la maraboutique. Qui dit cacao dit chocolat, et qui dit chocolat et cacao parle évidemment de la terre des Burnies, la Côte d'Ivoire. On a parlé de ce rang de premier producteur mondial en ce qui concerne le cacao, et la Côte d'Ivoire est représentée ici au salon du chocolat. Et nous tombons qui plus est sur une dame, elle est originaire de Daloa. Elle s'appelle Madame Thierrot et elle va nous parler d'un parcours qui est assez remarquable. Madame Thierrot, bonjour.
Bonjour.
Tout à l'heure, je vous ai demandé votre petit nom et je l'ai oublié, votre prénom.
Sanata.
Sanata. Exactement. Sanata qui aujourd'hui expose ici, du côté du Salon du Chocolat. C'est la première fois que vous venez ici pour exposer ?
Oui, c'est ma première fois à Paris, déjà, et ma première fois au Salon du Chocolat de Paris.
Première fois au Salon du Chocolat de Paris, mais quelle passion, parce que lorsque je suis passé avec mon micro, vous m'avez littéralement interpellé avec beaucoup d'enthousiasme en parlant de votre parcours qui est quand même pas simple et qui est plutôt d'ailleurs original. Mais avant de revenir justement à votre parcours, c'est d'abord de cette coopérative dont vous m'avez parlé, la SAHS, qui est une coopérative qui existe maintenant depuis 14 ans, qui est certifiée. Dites-moi un petit peu quelle est l'origine d'ailleurs de cette coopérative et où est-elle basée ?
Donc, à l'origine, la SAHS est une coopérative basée à Guessabo. Elle existe depuis 2007 et maintenant, on a une succursale qui est basée à Daloa et dans les environs. Donc, on couvre Daloa, Vavois, Diokwe et tout. Donc, voilà, on a plus de 3000 producteurs aujourd'hui dans notre coopérative.
3000 producteurs et aujourd'hui, vous portez toute cette énergie en rappelant quand même que la production s'élève à 5000 tonnes par an, ce qui n'est pas rien. Dites-nous un petit peu comment ça se passe. Pour ceux qui ne savent pas, quel est le principe d'une coopérative ? Comment ça se passe ? Vous vous réunissez, chacun vient avec ses sacs et vous les mettez ensemble pour essayer de trouver une énergie commerciale commune ?
Exactement. Donc, à la base, une coopérative, c'est un ensemble de personnes qui ont les mêmes objectifs, qui vendent les mêmes produits, qui se mettent ensemble pour avoir soit un meilleur prix ou de meilleurs avantages. Donc, dans notre cas particulier, nous sommes une coopérative de producteurs de cacao. Donc, c'est plusieurs producteurs qui se mettent ensemble, qui créent des statuts et des règlements intérieurs et qui ont pour objectif de vendre leurs produits au meilleur prix et pourquoi pas avoir des marchés à l'international.
Ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'histoire justement de cette coopérative, la SAHS, c'est que depuis mars 2021, vous êtes lancé dans la transformation, ce qui est généralement le plus grand défi. Au départ, on pensait coopérative et on disait que les coopératives servaient juste à amasser et à mettre des sacs pour les faire partir vers l'exportation, vers l'Europe. Aujourd'hui, la donne est différente.
Exactement. Donc, depuis plus de 2 ans, on cherche, on réfléchit, on s'est dit, mais on produit plus de 5000 tonnes qu'on exporte. Alors qu'après, quand on part dans les rayons du supermarché, on trouve des chocolats qu'on paye pour nos enfants, pour nos chéris, ainsi de suite. On s'est dit, mais si on a la matière première et si on a des chocolatiers ivoiriens, pourquoi ne pas se mettre à la transformation ? Donc, c'est comme ça que depuis 2 ans, on a cherché et on est tombé sur l'un des meilleurs, monsieur Axel Emmanuel, qui a bien voulu nous accompagner dans ce voyage. Et c'était un voyage passionnant parce que depuis le 8 mars, le jour de la journée de la femme, il est venu à Daloa, il nous a formés dans une école. En plus, on a fait venir toutes nos femmes parce qu'à la base, nous, on a une coopérative de femmes aussi qu'on forme pour faire des activités génératrices de revenus. Donc, on s'est dit, ça, c'est une opportunité justement pour nos femmes d'apprendre à faire du chocolat, d'avoir de l'argent et aussi à la coopérative de passer à une autre étape tant souhaitée. Donc, c'est comme ça qu'il nous a formés. Et aujourd'hui, plusieurs mois, je ne sais pas moi, 8 mois ou 9 mois plus tard, nous voilà à Paris en train de vendre notre chocolat.
Et couronné dans ce stand qui est quand même celui du Conseil du Café Cacao de Côte d'Ivoire, celui du chocolatier ivoirien est à quelques encablures d'ici, à côté de celui de Madagascar, à côté d'autres grandes enseignes. En tant que femme, vous insistiez tout à l'heure sur le fait que la formation de ces femmes qui sont aussi souvent dans nos contrées, dans nos villages, les gardiennes du temple, en ce qui concerne aussi la manière de conditionner et tout, vous sentez qu'il y a réellement un mouvement qui se passe de ce côté-là au niveau de la production ?
Oui, exactement, parce que déjà les femmes des producteurs, c'est les femmes qui participent de bout en bout à la réalisation des fèves en fait. Celles qui aident, celles qui envoient de l'eau, celles qui aident vraiment le mari tous les jours. Et après, quand le monsieur est fini d'aller vendre, il lui donne un pagne et puis bon, c'est fini. Après, c'est elles encore par derrière qui font des potagers pour gérer la famille quand les périodes sèchent. Parce qu'on a quand même 2 grandes périodes, mais il y a des périodes où c'est vraiment compliqué pour le producteur de cacao. Et c'est en ce moment-là, ces dames-là font des potagers pour gérer la famille. Donc on s'est dit que si elles entrent dans le process de fabrication de ces fèves-là, forcément, ça va aussi créer une autre chaîne de valeur ajoutée à ce qu'elles font déjà et tout. Et puis voilà.
Et ça va participer aussi à ce qu'on appelle la fameuse autonomisation. On ne va pas être en mode macroéconomique, d'autant plus que dans la case du Amanou Dibango, le dimanche, on aime parler de tout ce qui est créatif. Oui. Aujourd'hui, au niveau justement de cette coopérative SAHS, on est passé à la phase supérieure, c'est-à-dire que quand vous transformez, vous faites, dans la variété, et je vois des tablettes de chocolat Et d'ailleurs, en voyant cela, je vois des parfums chocolat au lait, au riz soufflé, je vois du chocolat noir, au gingembre, autant de saveurs qui aiguisent les papilles. Cette transformation-là, c'était déjà aussi dans l'idée d'aller plus loin que les centres commerciaux ou les enseignes ivoiriennes, comme c'est le cas aujourd'hui à Paris.
Au début, non, parce que déjà, ces femmes-là savaient faire certaines choses, par exemple avec le gingembre. Et c'est elles qui disent, mais et si on ajoutait le gingembre? Et si on ajoutait des trucs finalement qu'on retrouve tous les jours au champ? Le riz, c'est quelque chose qu'on mange tous les jours. Le gingembre, tous les jours dans la bouillie, dans le jus de gingembre, c'est des choses qu'on trouve tous les jours. Et même en dehors de ça, elles font aussi du savon avec de l'huile rouge. Donc pour dire que c'est vraiment elles, déjà à la base, qui nous donnent des astuces qu'on peut rajouter. Et après, on va checker un peu sur Internet naturellement pour voir si c'est des choses qui se font déjà, comment ça se fait, pour bien faire. Parce qu'on se dit, d'Alois, si on doit faire du chocolat, pour qu'on le fasse très bien. Surtout très bien pour qu'on puisse sortir du lot, pas seulement faire pour faire.
Et sortir du lot, ça veut dire aussi avoir un packaging intéressant. Quand je regarde justement, alors je vais le lire parce que c'est écrit un peu à la main, Scoop, S-A-H-S. Qui a eu l'idée d'ailleurs de ce nom?
D'abord, le nom, c'est le nom de notre coopérative. Ça veut dire, SCOP, c'est Société Coopérative. Et S-A-H-S, c'est en duo. Ça veut dire Sabari Kany Duo Sassandra. Le pardon est bon.
Non, il faut le reprendre encore. Sabari Kany.
Ça veut dire que le pardon est bon. Donc, comme c'est une association de plusieurs personnes qui se retrouvent pour vendre du cacao, il peut arriver qu'on ait des histoires, mais toujours le pardon est bon.
Ça se passe aussi entre journalistes.
Oui, ah bon? Donc voilà un peu l'origine de ce nom. Et on a voulu garder ce nom-là, puisque c'est notre coopérative, c'est notre cacao. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'on perde cette traçabilité-là. Et après, on a rajouté à ça le chocolat de Dalois. Pour que ceux, par exemple, qui sont dans la diaspora, quand ils voient Dalois, ils se disent, mais c'est chez moi, en fait. Et même s'ils ne voient pas tout le reste, rien que ça, déjà, ça donne envie de payer, même si ce n'est pas doux. Mais après, quand ils payent et que c'est encore bon, c'est la cerise sur le gâteau.
Mon fils Junior est à Dalois, ça va l'interpeller. Alors, on sait que Madame Diérot est forcément amatrice de chocolat, mais aussi peut-être mélomane. On ne va pas verser dans le terroir. On sait que des grandes gloires de cette musique ivoirienne viennent de Dalois et pourquoi pas de Teyeragué. On peut penser à Ernesto Djedjé. Mais vous, là, maintenant, quelle musique vous voudriez écouter et qui vous ferait plaisir?
On parle de femmes. Donc, au niveau de Dalois, à l'époque, il y avait des femmes qu'on appelait les femmes de Seria. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est des femmes qui ont bercé la musique Bété. Dalois, c'est une ville de Bété. Donc, ces femmes-là, elles ont fait vraiment les beaux gloires, mais comment on dit? Enfin, elles ont fait les belles époques dans la musique Bété et elles ont cartonné. Maintenant, elles n'existent pas parce que certaines sont décédées malheureusement. Mais sinon, c'est des femmes qui sont très fortes musicalement.
Je vais demander à mon consultant Albert Carino Drogba de nous trouver une de ces mélodies et nous revenons dans un instant justement pour évoquer le chocolat non seulement, pour évoquer cette coopérative Scoops S-A-H-A en compagnie de Madame Diéro depuis le salon du chocolat et dans la maraboutique du doyen Manu Dibango. Nidai ari abrei le bro wa diga cha ya bro wa wa goro pra wa guni ya di ari abrei yo abrei yo abrei nidai ri dai abrei yo ro ka bro wa foto bro ya mo ne di wo te ri ajo na mo go yo re
I'm ready.
la maraboutique dominicale que vous écoutez, pourquoi pas, du côté d'Abidjan sur les 91.1 FM. Nous sommes justement dans cet antre du Salon du Chocolat à Paris, le Salon du Chocolat qui avait manqué d'ailleurs, non seulement au public, mais aussi aux exposants du fait de la pandémie à coronavirus. Et en entrant, juste à l'entrée du stand, si vous entriez, eh bien vous avez découvert le stand du Conseil du Café Cacao Ivoirien, Conseil de Régulation, de Stabilisation et de Développement de la filière Café Cacao, ce qui n'est quand même pas rien. Et en me retournant d'ailleurs vers vous, Madame Diérot, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous, quand je parle de tous ces termes, ça ne vous surprend pas, parce que vous avez d'abord un passé de banquière. Alors, racontez-nous comment, et c'est le cas aussi pour l'actuel Emmanuel Baou, on passe de cette casquette de banquière à celle de femme qui aujourd'hui évolue dans ce domaine et qui est au niveau des coopératives et qui fait de la transformation agricole.
D'accord. Donc, moi, j'ai travaillé dans une banque, effectivement. À l'époque, l'État avait initié le programme de bancarisation du monde agricole. Et donc, dans ma banque, j'étais chargée de gérer le monde agricole. Parce que c'est pas facile. Les producteurs, il faut beaucoup de patience et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer les coopératives. Et comme par hasard, aujourd'hui, la coopérative où je travaille était l'une des coopératives pilotes pour ce projet-là. Et donc, au passage, je salue mon PCA aujourd'hui, qui était à l'époque directeur, M. Cissé Sidikiba, qui était directeur à l'époque, avec qui je travaille tout le temps pour bancariser ses producteurs. Donc, un jour comme ça, il vient à la banque, il dit, mais et la dame qui gère nos dossiers? On me dit, oh, on lui dit, mais elle n'est plus ici, son contrat est fini. C'est comme ça qu'il me contacte. Et puis, il me dit, mais madame, franchement, j'adore votre patience. Et je sais que travailler avec les producteurs, ce n'est pas facile, mais vous y arrivez et je veux qu'on travaille ensemble parce que j'ai une vision. Et je sais que vous serez celle-là qui va épouser la vision que j'ai et je pense qu'on va aller loin. Et aujourd'hui, combien d'années, quoi, 5 ans plus tard, il est devenu PCA et moi, je suis devenue sa directrice. Donc, c'est vraiment...
Le bonheur absolu.
Exactement, exactement. Au début, c'était très difficile parce que de la banque à l'agriculture, franchement, il y a plusieurs pas. Énormément de pas. C'était très, très, très compliqué, mais avec la patience, finalement, j'ai découvert un monde très passionnant et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel à exploiter.
Mais pour passer justement d'une casquette à l'autre, parce que je pense qu'aussi il y a un cheminement sur le plan humain, est-ce que le fait de revenir vers un produit qui est emblématique de votre pays, la Côte d'Ivoire, de revenir vers cette agriculture qui nourrit son homme et qui est définitivement l'avenir de l'Afrique, ça vous a fait quoi sur le plan personnel aujourd'hui? Parce que on a l'impression d'une valorisation, même si certains vont dire tu as perdu ton cadre, ton statut de cadre, tu es plus dans la fameuse voiture qui se gare au plateau.
Pour dire vrai, quand je suis quittée de la banque à la coopérative, je suis passée du moins, comment je peux dire ça, au tiers du salaire que je recevais. Au tiers. C'était dur, mais après, comme j'ai dit, mon patron avait une vision et sa vision me fascinait en fait. Après, c'était vraiment pas pour de l'argent au début parce que je me dis, mais il a une vision, le gars, il faut que je sens qu'il va aller loin. Et quand tu as devant toi quelqu'un qui a une vision tellement clair, tu ne peux que suivre cette vision-là. Et moi, c'était vraiment un challenge personnel. Et je me suis dit, on va y arriver, je ne lâche pas. Et aujourd'hui, voilà, si j'étais à la banque, ce n'est pas sûr que je serais à Paris aujourd'hui. Ce n'est pas sûr.
C'est le cas de le dire. Un propos porté par une femme, Astin Thierreux, qui est avec nous ce matin dans la maraboutique du Doha Manu Dibango. Et un clin d'œil particulier à une autre femme, d'ailleurs, qui vend debout, défend ce café cacao et ce cacao ivoirien. Il s'agit d'Abibata Touré Doucouré, qui, elle, a la promotion chevillée au corps. Quelques autres individualités comme Maxime Bouliga nous rejoindront dans un instant. En tout cas, où est-ce qu'on peut, les trouver? Nos auditeurs qui sont en Côte d'Ivoire peuvent peut-être prêter l'oreille, à défaut de ceux de Paris. Où est-ce qu'on peut se procurer ces fameuses tablettes?
D'accord. Présentement, nous faisons uniquement du e-commerce parce qu'on est en train de chercher des marchés ça et là pour être représentés par pas mal d'enseignes. Donc, c'est uniquement du e-commerce. Si vous partez sur Facebook, sur Twitter, vous tapez « chocolat de Daloa » et puis vous aurez les adresses, vous nous appelez. On va vous livrer peu importe où vous êtes, même si vous êtes à Paris.
Avec un chocovie.ci, j'ai vu.
Oui, avec un chocovie.ci, c'est aussi un partenaire technique qui nous accompagne dans ce packaging qui est fabuleux. C'est grâce à cette personne-là qu'on arrive à avoir cet emballage exceptionnel.
Voilà. Et puis, on a vu un emblème qui est un animal qui doit dire beaucoup de choses au ministre Touré Mamadou.
Exactement, c'est l'antilope. L'antilope, c'est l'emblème de Daloa. Et vraiment, comme vous avez dit sur l'emballage, on a fait ressortir notre ville, quoi. On a les fèves, on a le champ de cacao, on a la ville écrite en grand caractère et on a la fameuse antilope.
Monsieur Sandou Fofana, ministre du Tourisme de Côte d'Ivoire, et Madame Isabelle Anneau, vous aurez donc écouté le propos de Madame Thierrot. Et si vous entendez parler de cette coopérative Scoops SAHS, eh bien foncez les voir, c'est avec une belle énergie. Merci beaucoup à vous et bonne continuation.
Mais merci à vous d'être resté même de force.
La maraboutique du doyen Manu Dibango en mode radio permet de retrouver des confrères. Joachim Gata, bonjour.
Oui, bonjour Robert.
Une belle surprise de retrouver quelqu'un qui a officié quand même pendant 13 printemps au niveau de Radio Côte d'Ivoire. La présence à Paris dans ce salon du chocolat, chocolat, cacao qui rime avec une identité ivoirienne, c'est exaltant.
En effet, merci Robert de me donner cette opportunité. Parlant effectivement du chocolat, on parle directement du cacao, puisque la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao dans le monde. Nous sommes aujourd'hui, je pense, magnifiés et honorés d'être dans ce salon pour présenter effectivement ce que nous produisons et que nous proposons au monde entier.
Au-delà du cacao et de la matière chocolat transformée, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que ça. Il y a un message qui va tant du côté de la production agricole, mais également de la culture. Parce que lorsqu'on parle de la production de cacao, on va dans toutes ces régions et dans toutes ces villes et ces hameaux de Côte d'Ivoire.
En effet, vous savez, on parlait à l'époque de la boucle du cacao qui a été, je ne peux pas dire déplacée, mais beaucoup de transformations. Et c'est une culture de rente. Je pense qu'on gagnerait plus au niveau de nos pays producteurs de ces matières premières, gagnerait bien sûr à les transformer. Et je crois que c'est le plus important. Donc si nous voulons que les choses évoluent et que toute la Côte d'Ivoire soit également à l'image du cacao, il faudrait que nous pensions à la grande transformation et surtout à la consommation. En Côte d'Ivoire, nous sommes 25 millions de consommateurs. C'est peu par rapport à l'Europe, c'est peu par rapport à la Chine. C'est peu par rapport à l'Amérique.
Ça veut dire qu'il faut aussi repenser notre manière peut-être aussi de transformer. Tout à l'heure, on parlait avec Asita Diero de la SAHP, qui est une coopérative, SPAHS pour le dire comme ça. Elle nous parlait de l'adapter finalement à nos goûts culinaires. Il y a du gingembre, il y a du riz soufflé. Est-ce que, et d'ailleurs pour un yao à qui je parle, la voie n'est pas celle-là pour réattirer les gens vers cette consommation plus grande du chocolat?
Alors, cette dame dont vous parlez, j'ai eu une grande fierté et surtout, j'ai eu beaucoup d'émotion de savoir que depuis Daloa, elle fait de la transformation qu'elle propose. La seule crainte qu'on a, est-ce que tous les Ivoiriens auront les moyens, ceux qui sont dans les villages les plus reculés, de se procurer ce beau chocolat, de déguster, d'en apprécier effectivement la qualité?
Ma parole va être tranchante. On arrive à se procurer une bière. On arrive à se procurer une bière à 500 ou à 1000 francs. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à se procurer à un moment donné du chocolat, et notamment en éduquant peut-être les plus petits déjà à goûter le chocolat, et après tout, on en met à disposition?
En effet, comme vous le dites si bien, et c'est une question d'éducation, une question de culture, une question de transformation également de nos habitudes. C'est une question effectivement d'éducation qu'il faut effectivement engendrer et voir un peu où sont nos principaux intérêts. Je crois que c'est par rapport à cela. Qu'est-ce qui nous intéresse au premier plan? Qu'est-ce que la population consomme? On travaille encore aujourd'hui à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est encore un grand projet et aussi un grand défi pour les populations ivoiriennes. Et je pense qu'en consommant ce que nous produisons, on apprécie plus. On apprécie plus.
Un homme de radio, finalement, reste un homme de radio, même quand on raccroche dans une station de l'autre côté. Je parlais d'un instant avec Fatim de la Voix de la Diaspora, qu'on connaît bien. Tu vas pas me dire, Joachim, que tu as définitivement raccroché.
Vous savez, quand on a cela dans le sang, il est difficile de s'en départir, et surtout que quand on naît avec. J'ai démarré la radio depuis le collège de Saint-Viateur de Boisquet. J'étais en classe première. Lorsque sur Radio Boisquet, j'avais créé une émission littéraire, qu'on appelait magazine littéraire, en première et terminale. Après le baccalauréat, j'ai poursuivi cette aventure sur Radio Côte d'Ivoire et je pense y avoir officié pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je me retrouve en France. C'est toujours effectivement l'amour du métier et c'est une grande passion que nous avons toujours et nous vivons toujours avec. Je ne peux pas dire que j'ai définitivement raccroché.
Ça interpellera Dominique Guillot, qui est le PDG d'Africa Radio, une émission littéraire, Dominique, pourquoi pas, avec quelqu'un qui a ce sens de la narration et qui a cette voix, parce que finalement, ça manque aussi. Le fait de se retrouver ici, d'ailleurs, dans le Salon du Chocolat, finalement, Georges, est-ce que c'est pas une manière, parfois, de se reconnecter avec le pays? On a beau dire que, voilà, on y est en 6 heures d'avion, mais parfois aussi, ce contact et ces retrouvailles avec les gens qui font cette diaspora nous manque terriblement, et le Salon du Chocolat est propice à cela.
Alors, je suis sur Paris, dans l'Île-de-France, et je pense que je suis tout ouï. Africa Radio est notre radio à nous tous. Si Robert Brazza pense que mes services pourraient donner un plus à notre radio, Africa Radio, pourquoi pas?
Ben on le dira, la hiérarchie de la radio. Et dans la case du doyen Manu Dibango, le dimanche, qui officie toujours, même si il est dans les étoiles, quel morceau, quel artiste est-ce que tu voudrais écouter maintenant?
Alors,
carte blanche.
Alors, carte blanche, un chanteur qui m'a toujours marqué, c'est Baïs Pinto.
Ah, un Galier Baïs Sylvestre.
En effet, Baïs Pinto.
Qui célèbre ses 50 ans de carrière dans quelques encablures.
Ah oui, en effet. Donc, j'ai pensé beaucoup à lui. Il y a également d'autres artistes dont je pourrais parler, mais puisque vous m'avez demandé d'en citer un seul. Donc, Baïs Pinto, dont la voix envoûte, qu'on comprenne bêté ou pas, lorsqu'on l'entend chanter, on est emballé pratiquement.
Alors, Ken Apleso, Taxi Sounion, Poignon, voilà. Une TLC, à toi de choisir.
En effet, alors, je pense Poignon. Poignon, je ne comprends pas bêté, mais Poignon, c'est le pauvre.
Oui, et cette grande histoire, signification.
Lorsqu'on me l'a raconté, et à chaque fois que j'écoute cette chanson, eh bien, cela me donne la chair de poule.
Poignon de Baïs Pinto, qui d'ailleurs aura apprécié de retrouver la voix de notre ami Yaongata Joachim pour les intimes. On va l'écouter. Eh bien, on te souhaite le meilleur. Et si le message revient de la hiérarchie, on échange les coordonnées. Rassure-toi, nous ferons le relais.
Merci bien. Merci beaucoup. Et je salue toute la Côte d'Ivoire. Je salue toute l'Afrique. Je salue tous les auditeurs d'Africa Radio.
Oh, 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 oh
Baez Pinto sur Africa Radio 91.1 FM en Abidjan. Et depuis les allées de ce salon du chocolat, nous trouvons ici quelqu'un qui est multicasquette. C'est un cycliste accompli qui aime préciser qu'il change de modèle. On le retrouve sur une tribune à l'UNESCO pour parler de la prochaine édition du FIMA aux côtés d'Alfadi. On le retrouve dans différents espaces parisiens. Il a un cœur qui est définitivement ancré du côté de Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire et également du côté de Londres, d'où son nom, Benito de London. Le seul, unique, le vrai en chapeau avec nous et qui se snap pendant que je l'interview. Ça ne s'avance pas. Comment vas-tu, Benito ?
Je vais très bien, Robert. Ça fait plaisir de te revoir.
J'ai toujours pas la marque de ton chapelier. J'en suis jaloux. Mon tour de tête, c'est 62. Je te le précise quand même. Sans filet sur Africa Radio, dans les allées de ce salon du chocolat, tu tiens à être ici. Pourquoi ? Ce n'est pas simplement pour le goût du chocolat. C'est une émulation culturelle aussi.
Mais oui, il fallait venir quand même. La Côte d'Ivoire étant premier producteur mondial du cacao. Et il fallait absolument venir pour, comme on le dit dans le jargon, donner la force. Et à travers, bien sûr, ce salon, créer des réseaux, se faire des réseaux pour pouvoir, on va dire, promouvoir aussi et parler surtout du cacao dans nos différents milieux. Et ce qui est dommage d'ailleurs... Je ne vois pas trop les frères. Je me demande, peut-être qu'ils ne sont pas informés. Et maintenant, nous, je pense que nous, on va faire ce travail d'information. On va créer ce lien-là.
Mais j'ai l'impression, ça dure 5 jours. J'ai l'impression que justement, de plus en plus, toi, tu insistes sur le fait qu'il faut être aux endroits où l'Afrique, quelque part, est incarnée et portée, que ça ne va pas se passer qu'à travers la toile, à travers Facebook. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la présentation, justement, de l'UNESCO en ce qui concerne la caravane d'Alfadi. Mais te retrouver là, toi, en tant que Benito, alors que les gens t'enferment uniquement dans un statut nocturne, ça veut dire que toi, tu tiens également aussi, à un moment donné, à dire que l'Afrique, ben voilà, s'il faut qu'on la porte en Europe, il faut d'abord qu'on soit aux endroits où elle est représentée.
Ben justement, il faut... C'est la continuité hein, du travail des frères comme toi également. Bah, il se trouve qu'il y a pas mal qui ne sont plus là, qui sont en Afrique. Et nous, on continue ce travail d'information. Et il le faut parce qu'il y a tellement de potentialités. Et il faut être sur le terrain et éviter, arrêter d'être derrière les claviers. Il faut être sur le terrain maintenant.
Et être sur le terrain, toi, ça te donne différentes casquettes ou idées. Tu es en mode MC, concepteur. Enfin, tu as plusieurs casquettes finalement. Et tu étais il n'y a pas longtemps d'ailleurs en Abidjan où on t'a vu passer dans différentes enseignes et restaurants, dire, bah, écoutez, voilà, tel restaurant-là. Quasiment à l'image, je dirais pas d'un tour opérateur, mais d'un ambassadeur quelque part qui dit, bah, si vous suivez, et tu es très suivi sur la toile, voilà là où vous pouvez manger dans un très bel endroit à Abidjan. Tu donnes l'adresse, tu donnes les numéros. Ce n'est même pas quelque chose qui est rémunéré. D'où est-ce que te vient cette envie, à un moment donné, de passer le relais ?
Cette envie vient de mon parcours, on va dire, londonien. Parce que j'ai vécu avec pas mal d'amis jamaïcains et barbadiens également. En fait, à Londres, ils m'ont montré qu'ils sont vraiment les ambassadeurs de leur pays. Et il faut vraiment valoriser... bien sûr la Caraïbe. Et après quand je suis venu ici effectivement je me suis dit voilà il faut créer il faut continuer ce boulot là et en tout cas moi je le fais naturellement et puis je trouve pas ça extraordinaire, je me dis que ça doit être c'est comme ça que ça doit être en fait.
Moi, c'est comme ça que voilà. Ça doit être dans l'esprit anglophone, dans l'esprit francophone, tu es d'accord avec moi que c'est pas évident.
C'est pas évident. Et c'est pour ça que je salue déjà d'ailleurs ton travail, puisque tu as fait un travail monumental ici. Et on ne fait que continuer hein, ce boulot-là. Ben, on cherche par contre sur le terrain, on n'est pas beaucoup, comme on dit. Mais on va grouiller pour qu'on soit beaucoup.
Ben on va grouiller. Carte blanche dans la case du doyen Manu Dibango sur Africa Radio, qui adorait le chocolat, certes, mais aussi la musique. Quel morceau maintenant et de quel artiste souhaiterais-tu écouter ?
Manu, l'unique. Attends,
il n'y a pas. Même si c'est sa case, lui, il allait te dire oui, non, mais... choisis quelqu'un d'autre.
Non, parce que j'ai eu la chance de vivre dans les pays anglophones. Je sais ce qu'il représente, Manu. Pour moi, Manu, c'est. Je l'ai dit d'ailleurs en plus, je pense qu'au début du Fenua. J'ai été interviewé, on m'a demandé c'est qui l'artiste pour toi, africain, qui restera dans les annales. J'ai dit Manu. C'est une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Ben Manu Dibango. En plus, j'ai eu la chance. Ben toi, tu as eu cette chance plusieurs fois. Mais moi, j'ai eu la chance de l'accompagner à Strasbourg. Afrique Festival, organisé de main de maître par un londonien également.
Tu peux rappeler son nom d'ailleurs, il nous doit. Manouté.
Manouté Série.
On va lui faire une dédicace, c'est Manouté Série, avec un morceau de Manu Dibango. On va prendre New Bell. C'est un quartier de la ville de Douala. Et à mon avis, ça sonne.
New Bell. La première fois que je suis arrivé au Cameroun, on m'a déconseillé New Bell. On m'a dit non, mais c'est un quartier qui est dangereux, tout ça.
Et c'est aussi le fief de Samuel Eto'o qui aimait bien aller par là.
Mais justement. Donc moi je suis allé à New Bell et surtout, comment on appelle leur Shukuya là? Le Shukuya. Non mais ils ont un nom, camerounais. C'est un nom camerounais. Je pense à le coupé ou un truc comme ça.
Ouais.
En tout cas, New Bell, c'est très juif. Et moi j'ai kiffé New Bell. En tout cas, New Bell à vie.
Benito, le seul, unique, le vrai, sur Africa Radio, www.africaradio.com. Merci à toi.
Mon frère, merci. Robert Braza.
Après ce New Bell de Manu Dibango sur Africa Radio, je vous propose de vous rendre à la Riviera 2 plus précisément, une galerie où Camille Guizagne, un passionné qui a le cœur qui bascule entre chocolat et œuvres d'art. Thierry Dia, bonjour.
Bonjour, monsieur Robert.
Un plaisir de te retrouver, on ne va pas faire semblant, on va se tutoyer d'ailleurs.
Merci.
Tu retrouves les bords de Seine, enfin, pour ce salon du chocolat. Et j'imagine que pour toi, ça doit être aussi un bonheur de voir que la lagune est brillée et le reste du pays se déporte sur les bords de Seine.
Oui, c'est une très bonne chose parce qu'on est là pour faire la promotion du chocolat, le chocolat de Côte d'Ivoire. Et c'est ici que les gens consomment plus le chocolat. Donc c'est une fierté pour nous de venir proposer la qualité supérieure. Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial. Pas de plus normal d'être au salon de chocolat.
Voilà. Alors à quand justement premier pays consommateur? On sait que ce n'est pas les États-Unis qui vont prendre le relais, mais on parlait tout à l'heure avec Assitan Diero, on en parlait justement avec Yaoundé Gata, mon confrère. du fait qu'il faille maintenant apporter cette valeur ajoutée sur place et faire une transformation. Et on est en plein dans le salon du chocolat, donc vous voyez qu'il y a aussi des amitiés. La transformation, ça passe par quoi? Par une éducation, parce que c'est les tout petits à qui il faut aiguiser les papilles.
La consommation.
Oui, justement, la consommation. Mais pour cela, justement, pour qu'on multiplie justement un peu les adeptes de chocolat et les consommateurs, il faut commencer par les plus jeunes et les ramener à ce goût finalement.
Je pense qu'il faut commencer par les plus petits. C'est normal, ce sont les habitudes culinaires que nous, on n'en a pas forcément maintenant. Tout le monde aime le chocolat. Je pense que ça va être facile. Avec le travail que le conseil fait en amont et en aval, je pense que tout le monde commence à consommer beaucoup de chocolat en Côte d'Ivoire, les pains tartinés, au petit déjeuner et tout le reste. Avec la promotion, je pense que d'ici 5 à 10 ans, la Côte d'Ivoire va se classer parmi les pays qui consomment beaucoup de chocolat.
Et elle a de la concurrence dans ces allées. J'ai vu Madagascar, j'ai vu le Cameroun avec les gens de Sankt-Belima, j'ai vu également d'autres endroits où on n'imagine même pas, Sao Tomé et Principe d'ailleurs, qui ont un slogan assez étonnant, en disant que c'est la terre d'origine du cacao, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait, Thierry, pour le dire? L'effort, il doit venir d'où? Des consommateurs, de la diaspora africaine notamment, qui doivent devenir des ambassadeurs aussi de ce cacao, de ce chocolat?
Ah ben, je crois que Robert, vous répondez à tout ça. Hein. C'est ensemble, main dans la main, comme nous allons faire grandir le chocolat de Côte d'Ivoire et en faire, déjà les fèves sont de qualité, et déjà il faut qu'on passe à la transformation et faire des chocolats de qualité, c'est-à-dire avoir des cuisiniers aussi, des chocolatiers qui vont venir apprendre le chocolat aussi, et puis après nous avons nos papilles gustatives pour apprécier le bon chocolat de Côte d'Ivoire, et le reste se fera par la diaspora et tout le monde.
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de la République française, Maurice Kakoubandama, qui est également un écrivain, un homme de culture, parlait tout à l'heure de cette fontaine en chocolat qui va arriver. Il a parlé également, il a vu cet éléphant, emblème d'ailleurs de la terre des Burnies. Moi, j'avais envie de demander justement au galeriste, à l'amateur d'art également que tu es. J'ai vu une grande œuvre de Napoléon en chocolat, célébrant les 200 ans donc, de la mort de l'empereur. Aujourd'hui, le support et la matière justement chocolat, certains s'en servent pour faire pas mal de choses. Ça pourrait être, je sais pas, une manière d'attirer les yeux des amateurs d'art vers la Côte d'Ivoire. On y pense de ce côté-là.
Ah oui, non mais il y a beaucoup de jeunes ivoiriens qui font déjà des tableaux avec du chocolat. Tout à l'heure, vous avez vu, on a reproduit une œuvre de Picasso, Guernica en chocolat, et en Côte d'Ivoire aussi, ça peut être ça.
Alors pourquoi pas une œuvre de Jacob Blecher qui nous écoute en chocolat? Pourquoi pas une œuvre d'Azoumé le Béninois?
Ah oui,
parce que Guernica, c'est une œuvre immense de Pablo Picasso.
Oui, il y a déjà des Africains, des Ivoiriens qui en font déjà. Pourquoi pas une sculpture monumentale d'Azoumé en chocolat? Pourquoi pas? Bon, pas aussi oublier que sous nos soleils, ça va beaucoup fondre aussi.
Aussi, il y a les conditions de conservation d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, je le dis, et puis j'ai un amateur d'art en face de moi, le Don Mamoudi Bango adorait l'art. Il a une collection de tableaux extraordinaires, toujours dans ses demeures, que ce soit à Champigny-sur-Marne ou ailleurs. On ne peut pas faire l'impasse en t'ayant toi ici sur le plateau. On ne peut pas faire l'impasse justement sur ce marché de l'art, sur ces plasticiens peintres africains qui font parler de partout dans le monde, dont les œuvres se vendent à des centaines de milliers de dollars de l'autre côté de l'océan Atlantique et même ailleurs. Et ne pas pousser une sorte de coup de gueule ici, une fois encore, pour dire, il faut valoriser cet art. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore pour le pousser?
Ah, mais c'est que nos artistes travaillent, continuent de travailler. Et il faut qu'on ait de plus en plus de collectionneurs. Il faut que les Ivoiriens et les Africains achètent les œuvres d'art. Parce que, je vous dis, sur 100 artistes classés mondialement, il y a 43 Chinois. Pourquoi? Parce que c'est les meilleurs artistes, c'est parce que les Chinois achètent. C'est tout simple que ça. Il faut que les Africains commencent à comprendre que c'est des valeurs refuges et qu'il faut investir dedans. Et puis, c'est comme ça qu'on va reconnaître des Africains. Aboudia, Cheryl Sama, Ousmane Sow, tout le reste. Voilà.
Ousmane Sow, d'ailleurs, qui est sur le Pont des Arts, avait livré des œuvres magnifiques et est rentré dans l'histoire même artistique française.
C'est exactement ça. Il faut qu'on commence à s'y intéresser parce que la culture est tellement dans nos gènes qu'on peut pratiquement pas plus l'effort de pouvoir faire la promotion, mais les données sont en train de changer. Ça fait partie des patrimoines de beaucoup de pays. Aujourd'hui, on fait la publicité, on ramène les œuvres dans les pays où ces œuvres appartenaient à des communautés aujourd'hui. Mais ça va permettre à nos communautés de savoir si ce qu'ils faisaient avant était authentique. Et c'est important, plus on va valoriser ces œuvres-là. Mais si ces œuvres-là reviennent, que ça va mourir dans des placards, ça va être une très mauvaise chose.
Ça n'a aucune utilité. Ça n'a
aucune utilité, mais fallait les laisser ici. Mais si ça vient, que c'est valorisé, qu'on commence à apprendre à nos enfants, au bas âge, à aimer la culture de leur pays, à aimer les œuvres d'art, vous voyez que les Européens vont commencer à s'intéresser. Déjà, ils s'intéressent. Il y a eu un boom déjà de l'art africain en Europe. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a, il y a du boulot, il y a de la matière, il y a le côté mysticisme qui est aussi derrière, et ça intéresse tout le monde, à nous maintenant de nous battre, à travers nos ambassadeurs, à travers nos élites, à travers nos personnalités, de faire des achats, de visiter des musées, de construire des musées, et tout le reste.
C'est le propos d'un homme de culture, Thierry Ria, qui a aussi le cœur, je veux dire, qui balance. Il y a le conseil du Café Cacao, et également la galerie au Camille Design qui se trouve du côté des deux plateaux. C'est, partons bien, un clin d'œil à tous ces galeristes et qui font pas mal de choses en Abidjan. Il y a beaucoup d'endroits et de galeries, vous nous écoutez sur les 91.1 FM. Il faut y aller, ce ne sont pas des endroits morts, ce sont des endroits où les œuvres vivent. Et il est grand temps qu'on s'en approprie. Je pense que j'ai fait un blanc plaidoyer.
Alors là franchement, il n'y a plus rien à dire. J'ai dit merci et puis vive l'Afrique qui gagne à travers son art et ses matières premières. Quoi d'autre? Je pense que l'avenir nous appartient.
Merci beaucoup Thierry, à très bientôt.
Merci Robert.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, tendre une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu. Appel. Même la météo m'a répondu. Le soleil brille sur Kinshasa. Le pas de danse est perdu. Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, ma vie est arc-en-ciel. Même le bonheur, je l'entrevois. Il est tout fleur caramel.
Avec tout comme ça. Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Ça. Je ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Il y a des jours, comme ça. Il y a des ténots, des quartiers, c'est notre domaine. Au démarre,
tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Il y a des jours, comme ça.
Tout va bien.
Tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien.
Juste après le propos de Thierry Dia, c'était la musique de Pascal Lokwakanza, Tout va bien, extrait de son dernier opus qui s'appelle Moko. On prend la direction de Dakar pour le bulletin d'information de BBC Afrique et nous revenons dans la maraboutique du Doyen Manu Dibango, au cœur de ce salon du chocolat qui s'est tenu le week-end dernier dans la capitale française. À tout à l'heure.